Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode d'Aux Premières Loges. Vous connaissez le podcast là, où on revient sur chaque match éliminatoire de la Coupe Stanley dans ces séries 2024. Et il est présentement 2h20 du matin au moment d'enregistrer ça. Ça vous montre comment l'équipe d'Aux Premières Loges est dévouée. Et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Hans Junior Najimi. Comment ça va, Hans, dans cette nuit?
Bah, ça va très très bien, toi?
Ça va très bien, on est du bon hockey malgré tout. Alors, sans plus tarder, là, on a les matchs du 29 et du 30 avril à couvrir. On va se diriger vers le 29 avril, en commençant donc par celui entre les Panthers et le Lightning. C'est la fin du Lightning en 5 matchs. Les Panthers qui ont quand même lavé le Lightning 6-1 pour cette dernière rencontre. Ça n'a pas été une rencontre à l'image d'un 6-1, j'ai envie de dire, là, mais quand même, grosse performance des Panthers. Carter Verhaeghe, déjà un quatrième but pour lui dans cette série, va ouvrir la marque. Alexander Barkov, son premier des séries. Victor Hedman va marquer son premier but des séries, lui aussi, avec une véritable bombe, tout un slap shot. Et on se demandait peut-être que le Lightning était de retour dans cette rencontre. Mais non, parce qu'ensuite, Barkov, son deuxième. Evan Rodriguez sur tout un but, également son premier des séries. Verhaeghe, encore une fois, en filet désert. Et un autre but en filet désert de Nicolas, donc les gros canons des Panthers qui ont marqué. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre, Hans?
Ouais, c'était une grosse rencontre. Lightning faisait face à l'élimination, qui n'ont pas su sauver leur saison. Je te dirais je trouve qu'il y avait une différence dans l'énergie. C'est sûr que les Panthers étaient à domicile, donc ils étaient soulevés par la foule, mais ça se voit que les Panthers, c'est vraiment une équipe bâtie pour les séries. Ça joue vraiment avec émotion. Ils frappent fort, ça bouge vraiment vite sur la glace. Puis je sais pas si ça peut être une excuse pour Tampa Bay qui ont joué beaucoup de hockey durant les dernières saisons. T'sais, ils ont fait quand même beaucoup de grosses séries, beaucoup de finales de Coupe Stanley. Fait que ça peut jouer aussi sur le mental. Est-ce que les gars sont aussi affamés que certains, comme les Panthers qui ont perdu en finale de la Coupe Stanley récemment, qui ont eu des défaites crève-cœur en série par le passé. Donc ça peut jouer aussi là-dessus, mais aujourd'hui, les Panthers ont été meilleurs, puis surtout que les deux buts refusés du Lightning, ça a aussi coupé un peu dans leur élan. Fait qu'il y a plusieurs scénarios qui font en sorte que les Panthers aient le dessus aujourd'hui. Puis je ne voyais pas cette série-là finir en 5 matchs là, quand même.
Non plus.
Ça allait peut-être en 7, voire 6. Mais c'est tout à l'honneur des Panthers parce qu'ils ont vraiment montré que c'est une équipe qui est très dangereuse et qui est vraiment bâtie pour les séries. Dans ce match-là, ils l'ont prouvé. Là, c'est tout le monde qui marque. Le but d'Evan Rodriguez, c'est un super but. Tout comme Barkov là, qui marque des buts devant le filet. Tout le monde met la main à la pâte. Puis ça montre le bon résultat d'aujourd'hui. Le 6-1, c'est pas rien contre Tampa Bay.
Vraiment. Puis tu fais très bien de parler des deux buts qui ont été qui ont été refusés parce que à cause de les deux pour obstruction sur le gardien. Et c'était valide là, en fait les deux fois là, qu'il y avait effectivement obstruction, donc on ne peut pas chialer là-dessus côté du Lightning, mais ça a vraiment été un point tournant dans le match parce que le Lightning aurait pu prendre les devants là, avec ces deux buts-là, puis ça aurait pu être un match complètement différent. Donc oui, c'est des petits détails. Quand on dit que le 6-1 ne révèle pas vraiment ce qui s'est passé dans le match, bien c'est ça. Mais il faut quand même donner énormément de crédit aux Panthers. T'en as parlé. Barkov va très bien. Verhaeghe va très bien. Reinhardt va bien. Tkachuk joue du gros hockey, même s'il s'inscrit moins que les autres à la feuille de pointage, j'ai envie de dire, ils jouent du très gros hockey. Bobrovsky est excellent aussi. Donc, les Panthers là, vont vraiment très bien. Puis, c'est pour ça là, qu'ils ont roulé sur le Lightning en 5 matchs. Et vraiment, parce que sur ces 5 matchs-là, ils ont été extrêmement bons. Puis, du côté du Lightning, ils n'ont pas mal joué. Non. C'est juste les Panthers qui étaient vraiment au-dessus, qui étaient vraiment en mode série. Les Stamkos, les Kucherov, les Pointe, les Hedman ont joué du très bon hockey. Vasilevski, pas à son meilleur, c'est peut-être sa nuit, je pense, à Tampa Bay. Et on en a parlé tout le long de cette série, le bottom six côté Tampa Bay, qui n'a pas été à la hauteur de celui des Panthers. Petite question avant de passer à la prochaine match pour toi. Est-ce que tu penses que cette ère-là de domination du Lightning est finie? Une Coupe Stanley en 2020, en 2021, une finale en 2022. Là, ça fait deux fois qu'on se fait sortir en première ronde. Est-ce que tu penses que c'est fini la gloire pour la Lightning? Est-ce que c'est pas nécessairement les séries éliminatoires qui sont finies, mais cette gloire-là de se rendre en série, est-ce que c'est terminé?
T'sais, je pourrais pas dire avec assurance que c'est fini parce qu'ils ont tellement de talent pour aller loin. Puis ils sont menés par un excellent entraîneur qui est John Cooper. Par contre, je pense qu'il y a du renouvellement à faire, et ce, dans le noyau des joueurs. Parce que, comme j'ai dit précédemment, tu sais, tu as tellement vécu de finale, tu as tellement goûté à cette expérience-là que tu n'as pas la même soif, la même envie que les autres équipes qui ont peut-être aucun joueur avec l'expérience en série, qui ont du chemin à faire, qui veulent se prouver. Donc, peut-être qu'il faut renouveler, tu sais, Stamkos, son contrat vient à échéance, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec lui, mais c'est sûr que ça sera compliqué là, de garder le même noyau puis d'aller encore en série, là, t'es loin en série encore, parce qu'ils ont l'équipe pour faire les séries, ça c'est sûr, en saison régulière, sont aussi puissants, mais faire des longs parcours en série, je pense que ça s'arrête, tu sais, comme aujourd'hui, là, hier, on l'a vu, là, en fait, je pense plus qu'ils vont aller aussi loin en série, là, d'après moi. Mm-hmm.
Je suis assez d'accord, je pense que c'est la fin de leur ère de domination, puis ça a été toute une ère de domination pour le Lightning, quand même trois finales d'affilée, c'est quelque chose dans le hockey de nos jours. Puis que tu as parlé de Stamkos, c'est peut-être le dernier match de Stamkos dans l'uniforme du Lightning, là, ça serait peut-être, on dit bien peut-être, là, mais ça serait quelque chose à voir de voir Stamkos dans une autre équipe que le Lightning de Tampa Bay. Bon, là-dessus, l'autre match qu'il y avait hier également, 29 avril, c'est celui entre les Stars et les Golden Knights. Ça a été remporté par les Stars et c'est donc la seule série qui se retrouve à 2-2. Toutes les autres séries ont soit été 3-1 ou soit terminées en balayement comme les Capitals. Mais cette série-là donc, nous a donné un 2-2. C'est le fun d'avoir des séries 2-2. Je pense que c'est un point dans la série qui est le plus excitant, là, qui après quatre confrontations, on soit nez à nez. Donc, Amadio qui a ouvert la marque pour les Golden Knights. Dadonov qui a répliqué avec un tir d'un angle extrêmement restreint, un but chanceux, mais il a quand même pris sa chance et il a trouvé le petit trou. Jack Eichel ensuite qui poursuit ses excellentes séries avec un but. Wyatt Johnston qui est en feu derrière match, je pense que c'est trois buts à ses deux derniers matchs, va marquer un but en avantage numérique. Ty Dellandrea ensuite, quatrième trio des Stars, excellent match de leur côté. Là. Ils ont eu beaucoup de temps d'utilisation sur le quatrième trio. Ça a payé avec un but de Dellandrea. Et enfin, Rupe Hintz qui ouvre son compteur dans cette série pour les Stars avec un but en filet désert. Pour moi, de ce que j'ai analysé de ce match-là, je l'ai vu au complet, puis c'est un match en deux temps, pas mal, j'ai trouvé. La première période dominée par les Golden Knights, qui était vraiment incisif, et grâce à l'opportuniste de Dadonov, on a été capable de sortir de cette première période-là à 1-1 côté Dallas. Puis ensuite, le reste du match a beaucoup plus été à l'avantage des Stars, j'ai parlé du quatrième trio entre autres. Mais vas-y, tes impressions sur ce match?
Ouais, ben justement, comme tu l'as dit, ça a été un peu des deux côtés. Chacun a eu son moment fort, puis les Stars en ont profité pour sortir avec la victoire. La seule inquiétude qu'on avait, en tout cas, du moins pour ma part, là, c'est est-ce que les Stars seraient capables de répéter les mêmes exploits qu'ils ont eu durant la saison régulière en série, surtout contre Vegas, qui avait des joueurs qui étaient de retour, puis on le sait, Vegas en série, c'est une équipe qui est très, très dure à affronter. Puis aujourd'hui, à 2-2, je pense qu'ils ont mis toutes leurs chances de leur côté, là. Je pense que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Durant ce match-là, ils l'ont montré, là, ces quatre trios qui fonctionnent très, très bien. Tout comme en saison. Donc, tu sais, quand tu as l'apport de plusieurs joueurs, de quatre trios, tu as des défenseurs qui appuient bien l'attaque puis qui soutiennent bien leur rôle défensif. Tu as un gardien, Oettinger, qui joue pour une moyenne de 907 avec 2,38 buts accordés par match. Je pense que tu te donnes les moyens de gagner. J'espère, tu sais, les voir passer parce que ce serait une belle histoire. Mais dans ce match-là, ils ont montré que ils pourraient gagner cette série-là, puis ça, sans la relais à Vegas. Là.
Puis, mais c'est ce qui est spécial dans cette série-là, c'est que les Stars ont gagné les deux matchs à Vegas, puis les Golden Knights ont gagné les deux matchs à Dallas. Ouais. Puis, côté Dallas, les deux premiers matchs à la maison, j'ai trouvé décevant. Moi, je pensais que c'était une des meilleures équipes une des meilleures équipes de l'Ouest. Puis, tu as les Golden Knights qu'on avait peut-être un peu sous-estimé avec tous ces joueurs qui reviennent de blessures pour les premiers matchs de la série. Donc, il y a ça qui est entré dans la balance dans cette série-là. Puis là, aussi, hier, on a eu le réveil enfin de Hintz. Bon, c'était un but en filet désert, mais quand même, c'est son premier but des séries. Matt Shane qui a obtenu son premier point. On a vu le trio à Jamie Benn, le trio à Seguin là, être plus impliqué dans le jeu. Wyatt Johnston qui retrouve ses eyes également. Donc, côté des Stars, si la machine commence à repartir un peu partout, on devient vraiment dangereux. Qui tu vois le remporter le reste de... c'est une série qui est une année qui semble extrêmement serrée, qui sera probablement la série la plus serrée là, dans ce qui nous reste parce que les autres sont soit 3-1, soit 3-2. Qui tu vois remporter? Ça peut aller d'un bord ou de l'autre, j'ai l'impression.
Ouais, ça peut aller d'un bord ou de l'autre, mais je vais quand même donner l'avantage aux Golden Knights. Je pense qu'ils ont une force de frappe un peu plus supérieure à celle de Dallas. Ils ont aussi un gardien qui, je veux dire, peut-être pas équivalent à Thompson, mais qui peut quand même garder des buts aussi solidement qu'Oettinger. Ça fait, je donnerais avantage aux Golden Knights, surtout c'est parce que leur noyau défensif est extrêmement solide, tout comme leur désavantage numérique, puis leur avantage numérique. Donc, j'irai avec Golden Knights, mais ça ne m'étonnerait même pas aussi que ce soit en 7, là, que cette série-là se finisse.
Bien d'accord, moi aussi, je crois que ce sera en 7. Puis, tu as raison, les Golden Knights, moi, je pense même que Thompson est meilleur que Oettinger dans les filets dans cette série-là. De ce côté-là, l'avantage va aux Golden Knights, l'expérience aussi. Mais les Stars ont très bien combattu là, dans les derniers matchs, ont montré du caractère. Donc, tu l'as dit, ça va être très intéressant à suivre le reste de cette série-là. Passons donc maintenant au match du 30 avril, qui était donc aujourd'hui slash hier. Les Maple Leafs de Toronto qui ont survécu après avoir été la risée, puis après les événements là, la dernière rencontre avec Marner et puis Nylander qui l'engueulade sur le banc. Et là, il y a Matthews qui est malade aussi, n'a pas joué dans cette rencontre-là. A pris quelques tirs, je pense, à l'échauffement, mais finalement n'a jamais joué. Bref, ça a été un match assez défensif, assez... résilient là, dans l'espace restreint, puis c'est un bon match défensif de série. En première période, 2 buts, Jake McCabe qui va marquer son premier des séries. Mitch Marner obtient une passe sur le but. Trent Frederick réplique pour les Bruins et il n'y aura pas de but jusqu'en prolongation. Et c'est enfin John Tavares qui va s'illustrer, là, va amener la rondelle jusqu'au filet. Et puis Matthew Knies va la pousser derrière Jeremy Swayman pour laisser les Leafs en vie. Et je dois t'avouer que j'ai seulement écouté les fessiantes de ce match-là. Je n'ai pas pu le voir. Donc, si toi, tu l'as vu, eh bien, parle-moi-en. Analyse-moi cette rencontre.
Ouais, ben ça a été, comme tu l'as dit, une rencontre qui a été assez défensive. Je pense que Toronto ne voulait pas trop se mouiller, mais voulait être quand même menaçant. Puis ils ont quand même raisonnable de dire qu'ils ont bombardé Swayman. Là, ils ont vraiment essayé de marquer de toutes les angles possibles, soit derrière le filet, dans des angles restreints ou même de devant de l'enclave. Je pense qu'ils ne voulaient pas perdre à l'extérieur. Ils avaient envie de jouer le prochain match à Toronto. Puis ils se devaient de rebondir après leur performance du dernier match, puis des événements, comme tu as dit, entre Marner puis Nylander. Et surtout, en l'absence de Matthews, il y a des joueurs qui devaient se lever, qui devaient montrer qu'ils sont capables de porter cette équipe-là vers l'avant. Puis Tavares a fait un gros jeu là, en portant la rondelle vers le filet. Là, ils en ont profité. Donc, je pense que c'est une bonne victoire pour Toronto. Est-ce que ça va les permettre de gagner à Toronto en prochain match, puis revenir pour un match 7? On va voir. Mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, là, c'est qu'ils peuvent faire confiance justement à Joseph Woll dans le but parce qu'il était vraiment intraitable aujourd'hui. Accorder un but malchanceux parce que c'est un mauvais rebond qui est accordé dans l'enclave, puis il fait de qu'on a profité. Mais il a été capable de garder les siens dans le match avec des gros arrêts clés, là, notamment en période de prolongation. Donc là, si Matthews revient, puis si l'équipe est capable de se gérer puis de jouer comme ils ont fait aujourd'hui, ils se donnent des bonnes chances là, de gagner le match numéro 6 face aux Blues.
Oui, tout à fait. Ça en prend pas gros. Là. Oups, excusez en fait ne plus croire en les Leafs, mais tu l'as dit, c'est un match comme ça où ils montrent du caractère où, de ce que je comprends, ils ont eu l'avantage, ils ont bombardé Swayman, comme tu l'as dit. Puis du côté de Joseph Woll, c'est son premier match, si je ne me trompe pas, là, dans cette série. Ouais. Les autres, c'était tout à Samsonov. Donc, c'est Joseph Woll, un renouveau dans les filets. À voir. Puis c'est ça, Joseph Woll qui est peut-être le gardien d'avenir même des Leafs, ça va être à suivre. Et du côté des Leafs, il ne faut pas oublier, on a Nylander qui a manqué les deux ou même deux premiers matchs de cette série-là. Ouais. Puis Matthews que ça a fait... un match et une période qui manque, qui n'était vraiment pas à 100% lors du dernier. Donc, faut pas commencer à sortir les excuses, mais il y a des raisons de pourquoi on ne performe pas notre meilleur non plus du côté des Leafs. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, mais les Blues aussi qui jouent du très gros hockey dans cette série. Mais tu l'as bien dit, les Leafs pourraient très bien revenir dans cette série. Autre chose à rajouter sur ce match ou est-ce qu'on passe au prochain?
On peut passer au prochain.
Allez, on passe au prochain, puis voilà. On s'en va être à suivre dans cette série si on va pouvoir continuer à rire des Leafs côté de Montréal aussi. Eh bien, on poussera un match numéro 7 et là, on rira pas mal moins. Donc, maintenant, une autre série qui s'est terminée ce soir, ben, une autre. La première s'est terminée ce soir. C'est celle entre les Hurricanes et les Islanders de New York. Après avoir quand même vaillamment combattu là, les Islanders dans presque tous les matchs de cette série, ils vont s'incliner par la marque de 6-3. C'est les Hurricanes qui vont partir en force avec Turvo, Teravainen et Andrei Svechnikov qui vont marquer. Svechnikov, premier but des séries en avantage numérique. Mike Riley, également en avantage numérique, va marquer pour les Islanders, faire 2-1. Ensuite, on se voit décerner un tir de pénalité du côté des Hurricanes parce que Alexander Romanov a mis la main sur la rondelle. On désigne Evgeny Kuznetsov pour tirer le tir de pénalité. Et qui est-ce qu'on va désigner? C'est, bien, comme je l'ai dit, Kuznetsov. Et il va y aller de sa traditionnelle feinte très lentement. Et il va attendre que c'était Varlamov dans les buts, ça? Que Varlamov dans les buts se dévoile, en fait, essaie de le harponner pour marquer. Donc, classique Kuznetsov, un très beau but. Nelson et Cizikas vont répliquer pour les Islanders. Jack Drury va marquer son premier but en carrière en série éliminatoire pour faire 4-3. Et finalement, Nursen sur un but vraiment bizarre. C'est en 8 secondes, ces deux buts-là qui se sont marqués. Nursen, un but très chanceux là, avec la rondelle qui frappe la bande, qui va en profiter. Et ça va être vraiment le coup fatal pour les Islanders parce que Seth Jarvis va ensuite marquer dans un filet de désert. Marque finale 6-3. Et voilà, comme je l'ai dit, les Islanders, qui ont, eux non plus, n'ont pas nécessairement mal joué dans cette série. C'est les Hurricanes qui sont expérimentés, qui sont capables d'être plus opportunistes, j'ai l'impression. Puis voilà, je te laisse continuer pour le reste de ce match.
Ouais, ben c'est ça. T'sais, les Islanders, là, ils ont livré tout un match aussi. Là. Ils ne sont pas à blâmer. Ils ont fourni l'effort. Ils ont été très résilients à l'image de leur entraîneur, là, Patrick Roy. Par contre, ça n'a pas été suffisant parce que Caroline a profité de toutes leurs chances. T'sais, dès le début du match, Tervainen qui se prend par la mob d'un tir vif. Il ne peut rien faire. Ça vient vite. Donc, c'est 1-0. Puis après, même pas 2 minutes après, sur un avantage numérique, c'est Aho qui marque. Donc, tu perds 2-0 dès le début, là, après même pas 4 minutes de jeu, ça fait mal. Puis tu l'as mentionné aussi, là, le but du 4-3 puis du 5-3 qui surviennent à même pas 10 secondes d'écart. C'est ça qui a vraiment nuit aux Islanders parce que je pense que sans ces deux séquences de buts rapides, ils étaient encore dans le match, ils avaient encore de quoi à donner, mais c'est vraiment une avance de 2 buts, c'est quand même assez difficile à remonter, surtout quand tu l'as 2 fois. Je pense que les deux, ils ont rien à envier nécessairement à Caroline, mais je pense qu'il manquait peut-être un petit peu de profondeur ou peut-être de joueur étoile, on va dire ça de même. Mais Caroline a vraiment le dessus. Puis, c'est une autre équipe, là, comme les Panthers qui à domicile, je pense que ça va être très, très, très dur de les battre. Ils sont très, très forts, ils vont très, très vite. C'est une belle équipe à voir. Donc, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ce que la LN2... ils battent Caroline. Moi, que cette série-là finisse en 4-1, ça me semble assez normal.
C'est ce que j'avais prédit, moi. J'avais pris Hurricanes en 5 et j'ai eu exactement bon. Fait que,
ouais, c'est ça. Mais, bravo à moi. Par contre, ils ne sont pas fait démonter dans tous les matchs. Donc, c'est un point positif pour l'équipe, pour Patrick Roy aussi et pour le futur.
Ouais, Patrick Roy, tu fais bien d'en parler, qu'on a embauché en fait pour qu'il fasse participer les Islanders aux séries. Il a réussi sa mission. Puis après ça, je pense qu'à peu près tout le monde s'attendait à ça, qu'il réussisse à les envoyer en série, mais qu'il s'incline au premier tour. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis côté des Islanders, ben ça, c'est une opinion personnelle, mais tu sais, depuis plusieurs années, on a à peu près le même style de jeu, peut-être plus défensif. Ça a eu du succès dans le passé. À quelques reprises, on s'est rendu quand même loin. Mais j'ai l'impression là, que plus les années avancent, moins c'est un bon style de jeu pour le hockey de nos jours, qui est rapide, qui est axé sur les habiletés, sur l'attaque. Et des équipes comme les Islanders qui ont un système de jeu plus défensif, comme les Kings également, j'ai l'impression que c'est des styles de jeu qui vont fonctionner de moins en moins bien. Quoi qu'en série, c'est peut-être plus propice, c'est vrai, mais on l'a vu, là, une équipe comme les Hurricanes qui est meilleure offensivement et surtout très opportuniste tout au long de la série, bien, ça ne fonctionne pas. Quand même, il faut donner à Varlamov sont dus, là, c'est 38 tirs quand même pour les Hurricanes. Bon, Varlamov a accordé beaucoup de buts et aussi des buts qui étaient hors de son contrôle. Là. Je pense, le but de Nessin, c'est rien qu'il peut faire, mais a quand même été bien bombardé de son côté. Il n'a pas disputé une mauvaise série. Là. Il a été meilleur que sur Hurricane qu'on a essayé un match. Donc voilà, c'était juste trop peu de solutions là, du côté d'Islanders. Puis les Hurricanes qui sont une excellente équipe de hockey. Là-dessus, on passe à la prochaine, Moans. Allons-y, donc Avalanche et contre Jets. Une autre série qui se termine. Également en 5 matchs, le côté de Avalanche et Jets. Une série que plusieurs amateurs pensaient qu'il serait beaucoup plus serré, moi y compris. Mais l'Avalanche a surpris un peu tout le monde là, avec une force offensive là, vraiment impressionnante là, qu'on savait qu'il possédait, mais qui a vraiment ressorti dans cette confrontation-là. C'est tout de même les Jets qui ont voit la marque en premier. Kyle Connor, troisième des séries. C'est un but extrêmement bizarre. Là. C'est Josh Manson qui va dégager sur les Konen. Manson, je comprends qu'il était pressé, mais il aurait peut-être juste pu regarder là, où envoyer la rondelle. Mais bon, ça n'a pas eu de conséquence parce qu'on a fini par gagner le match quand même. Nichushkin, qui est déjà à 7 buts dans cette série, avait marqué un tour de chapeau lors du dernier match. Yakov Trenin, acquisition là, de quatrième trio à la date limite des transactions, marque son premier. Josh Morrissey, ensuite en avantage numérique. Arturi Lekkonen, un autre but contre son camp, si on peut l'appeler comme ça. Donc, but chanceux, mais déjà un cinquième pour Arturi Lekkonen. On en parlait dans notre groupe. The Clutch Guy, c'est Arturi. Tyler Toffoli, ensuite, va marquer un beau but, bon tir de sa part. Bon tir, quoique Gorgiev a peut-être paru un peu faible. Ensuite, c'est Rantanen qui va en marquer deux. Et là, ça va faire 5-3 à ce moment-là. Les espoirs vont être très bas. Et Josh Manson va marquer dans son propre filet cette fois-ci. Pas dans son propre filet, dans le filet adverse, excusez. Donc, voilà, 6-3, la marque finale. Voilà, donc c'est même... Ben oui, Rantanen a deux buts, puis Mäkinen a des points. Mais dans une tendance qu'on voit dans le dernier match, c'est pas nécessairement grâce à leur grand leader. Là, ben, ils participent au pointage, certes, mais c'est pas nécessairement eux les têtes d'affiche des matchs. Du côté de l'Avalanche. Et c'est ça qui est impressionnant et qui est fort, c'est que tout le monde participe à l'attaque côté de l'Avalanche. Puis ça a tout simplement submergé les Jets dans cette série-là. Je ne sais pas si tu veux aller plus en profondeur sur l'échec des Jets puis cette puissance de l'Avalanche.
Ouais, ben, tu sais, l'Avalanche, c'est aussi une autre équipe qui est bien construite. Malgré qu'ils ne soient pas rentrés dans la meilleure des formes possibles en séries éliminatoires, ils ont eu une fin de saison un peu. En dentiste, là, on va le dire de même, là. Mais je pense que c'est une équipe qui est faite pour les séries. Malgré l'absence de Jonathan Drouin, on a vu des gars se lever. L'acquisition de Casey Middlestad vient solidifier un autre trio avec l'absence aussi de Landeskog. Défensivement, tu as quand même le meilleur défenseur de la ligue en Makar. Tu as Georgiev qui a été moyen, voire pas très bon au premier match, mais qui s'est remplacé très, très vite, qui a accordé en bas de 3 buts dans tous les matchs. Puis c'est ce qui a fait la différence parce que dans ce duel-là, c'était vraiment un duel de gardien, on pourrait dire. Probablement le récipiendaire du Vezina là, cette année, Hellebuyck, qui a été vraiment pas à la hauteur des attentes là, cette année, en série. Durant la saison régulière, c'est quand même 2.39 puis 921 de statistiques. Puis là, on n'a rien vu de tout ça là, durant les séries. Il a accordé au moins 5 buts dans tous les matchs. Fait que ça n'a pas aidé les Jets. Il n'arrivait pas nécessairement à percer la défensive de l'Avalanche. Donc, quand la défensive ne fonctionne pas, puis ton offensive ne produit pas autant que tu le veux, tu vas avoir de la misère à gagner des matchs, surtout contre une équipe comme l'Avalanche qui a des gros canons qui peuvent te punir à tout moment, encore plus si les quatre trios fonctionnent bien. Donc, je pense que c'est assez légitime que Colorado passe en 5 matchs. Là, ils ont montré qu'ils étaient au-dessus des Jets. À tous les aspects de leur jeu, que ce soit gardien, défensif ou offensif. Donc, c'est dommage pour Winnipeg qui avait vraiment connu une très, très bonne saison régulière, mais c'est ça, c'est quand les séries arrivent, c'est vraiment l'expérience qui fait la différence. Puis, c'est aussi ton gardien qui va te permettre d'aller loin parce que ça devient une pièce maîtresse vraiment de ton équipe, encore plus importante en série que lorsque de la saison régulière. Parce qu'il doit être à la hauteur à chaque match. Il n'y a pas 82 matchs pour être parfait là, ou pour se reprendre. C'est vraiment, tu as le droit à 3 fois à l'erreur, puis après, tu te fais punir, tu sors des séries. Donc, Georges avait eu le dessus sur les Bucks. On ne s'attendait pas nécessairement à ça. C'est à l'honneur de l'Avalanche.
Ouais, tu l'as dit, même si, ouais, c'est ça, on s'entendait même pas du tout à ça après le premier match, j'ai le goût de dire. Puis ouais, ben, c'est incroyable le nombre de buts marqués par l'Avalanche. Est-ce que Hellebuyck était fautif sur plusieurs d'entre eux dans ce match-ci? Je ne crois pas, on peut pas tout lui blâmer, mais effectivement, dans l'ensemble de la série, clairement qu'il aurait pu être plus solide que ça et que Gorgiev a fait plus d'arrêts clés que lui au final, c'est vraiment ça. Et aussi, faut, comme je l'ai dit, il faut donner du crédit au firepower, au rouleau compresseur du Colorado. Là. Tout le monde s'inscrit à la marque. C'est une attaque qui est vraiment bien rodée, qui est vraiment bien construite. Et tu l'as dit, on n'a même pas Jonathan Drouin en plus qui pourrait revenir pour la deuxième ronde. Donc, à voir. Pour ce qui est de Winnipeg, est-ce que toi, c'était l'équipe canadienne en laquelle tu avais le plus d'attentes? Parce qu'on a quand même des candidats quand même assez sérieux cette année pour la Coupe Stanley. Bon, les Canucks qui sont encore en vie, mènent 3-2. Les Jets, selon plusieurs, étaient l'équipe canadienne qui aurait pu se rendre loin. Ça n'a vraiment pas été le cas. Parle-moi de tes attentes que tu avais envers les Jets.
Oh non, c'était pas eux que j'avais choisi pour aller plus loin, c'était les Oilers. Okay. Mais,
Oilers, parfait. Non, mais c'est un bon choix, je pense. On voit que. Ouais.
Mais c'est sûr que mon choix aurait pu être pour les Jets après avoir vu leur saison régulière. T'sais, c'est une des équipes défensivement qui était vraiment très, très solide. Puis ils avaient toutes leurs chances de gagner contre les Avalanche qui a été moyen, on va dire, là, pas à la hauteur des attentes. Mais non, je pense qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de déceptions dans le camp des Jets parce que. Je pense qu'ils s'attendaient à un meilleur résultat de leur part, là. C'est pas de gagner un seul match seulement, puis de se faire éliminer en 5, surtout devant leurs partisans à domicile. Je pense qu'on peut dire que c'est des séries qui sont complètement ratées. Même on parlait même d'un congédiement d'entraîneur là, qui était peut-être, là, je voyais ça aux nouvelles. Je pense pas que ça devrait être le cas, mais il y a beaucoup de questionnements qui vont rentrer là, durant cet été pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que tu sais, se faire éliminer en 5 matchs alors que tu as été une des meilleures équipes de la ligue là, pendant la saison régulière, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, à voir. Pourtant, ils avaient les joueurs ils étaient bien garnis.
Ouais, beaucoup de travail à la date limite des transactions. Là.
C'est ça, ils étaient bien garnis. Tu sais, l'acquisition de Monahan, Toffoli qui marque un but aujourd'hui. Donc, moi je suis déçu un peu de voir les Jets sortir très tôt, mais. Écoute, quand tu tombes face à une équipe à l'Avalanche, comme une Avalanche, là, c'est des fois tu te dis, ouais, c'est un peu normal. Là.
Ouais, puis outre le box, c'était la meilleure défense là, en saison régulière. Les Jets, là, ça n'a vraiment pas été ça en série. Ouais. Si on enlève le box, même les défenseurs au niveau de couverture défensive n'ont pas été capables de suivre l'Avalanche de ce côté-là. Ça fait vraiment une grosse déception pour les Jets. Puis là, tu parlais de l'avenir un peu. J'ai l'impression qu'on est dans cette inconstance depuis des années du côté des Jets. Là, soit on réussit à faire les séries puis on bâtit quand même de bonnes équipes comme cette année, ou des fois on ne fait tout simplement pas les séries puis c'est la crise. Puis là, ben, il y a Scheifele, Connor, Lebas qui ont décidé de rester, donc ce noyau-là. Et c'est on va voir qu'est-ce qui va s'en suivre du côté des Jets, mais c'est pas fameux, puis ça doit être une grosse déception d'être fan des Jets après avoir eu d'autant grosses attentes, comme tu l'as dit, étant une des meilleures équipes de la Ligue cette année. Donc, on est déjà rendu à notre sixième et dernière confrontation à couvrir. Hans, on est allé en mode rafale, c'est parfait. Canucks contre Preds. Cette série-là n'est pas terminée. Les Prédateurs étaient au bord du gouffre, mais ont finalement réussi à gagner ce match-là. Je ne dirais pas de façon tellement convaincante là, de ce que j'ai vu des faits saillants. Là. Les Canucks ont eu beaucoup d'occasions de marquer. Et tout s'est marqué en troisième période. Tous les buts sont marqués en troisième période. Mais quand même, gros travail de Saros et aussi de Tillov qui a fait des bons arrêts, c'est vrai. Là. Des deux côtés. Mais bon, en troisième période, Nikita Zadorov, un coast-to-coast. Quel but de ce défenseur qui n'est pas reconnu comme un défenseur avec des habiletés offensives tant que ça. Mais là-dessus, waouh, quel but tire dans la partie supérieure et transporter la rondelle d'un bout à bout. Et ensuite, du côté des Preds, pas deux buts rapprochés, pas les buts les plus élégants du tout. Roman est aussi en avantage numérique, son premier des séries pour le vétéran. Et finalement, Alexandre Carrier, donc deux défenseurs qui s'inscrivent à la marque. Carrier, c'est un but classique, le tir au filet, circulation devant le filet, Silovski qui ne voit rien. Un but classique que de série, donc ils ont fait le travail là-dessus. Puis grosse mention là, donc quand même à Saros qui a fait de bons arrêts porteurs et à Silovski également. Côté des Canucks, là, j'ai sorti ça, si je ne me trompe pas, c'est 92 tirs sur 5 matchs. En série, là, c'est 20 ce soir, puis à certains moments, à certains matchs, il y avait 12 tirs au but côté des Canucks. Donc, oui, on a quand même des chances de marquer, mais ça diminue tes chances de marquer quand tu as autant peu de tirs. Je pense que c'est une moyenne de 18, en fait, pas je pense, j'ai fait le calcul tantôt, c'est une moyenne de 18,4 tirs par match. C'est tellement bas, là, assez rare qu'on voit des équipes tirer moins de 20 fois là, dans un match. Puis là, leur moyenne, eux, est en bas de ça, c'est 18,4. Donc, c'est vraiment très peu pour les Canucks. Donc, c'est inévitablement, ça va finir par leur nuire et ça leur nuit là-dessus dans ce match-là, même si c'était pas nécessairement la moins bonne équipe sur la patinoire dans ce match-ci. J'ai parlé beaucoup, donc vas-y, là, de ton analyse de ce match-là.
Oui, ben, c'est une bonne statistique que tu sors, surtout quand le gardien que tu affrontes, c'est Yussi Saros. C'est un très, très bon gardien. Donc, ouais. Si tu ne le mets pas à l'épreuve, c'est encore plus dur de percer sa muraille, disons. Il a été très solide là aujourd'hui, des bons arrêts clés, qui a gardé son équipe dans le match. On pensait que ça allait aller du côté de Vancouver là, après le but de Zadorov après 4 minutes de jeu en troisième période. On pensait que Vancouver aurait pu conserver son avance, mais non, tu l'as dit, là, Nashville est revenu. Ils ont fait preuve de caractère. Il y a aussi, c'est pas le plus beau but de sa carrière qu'il a marqué, mais en série, tu prends tout ce qui rentre. Après, carrière, c'est pas les plus beaux buts, mais quand tu peux marquer, tu le prends. Puis, non, c'est une série intéressante parce qu'il est retourné à domicile. S'il gagne à domicile, après, il y a un match numéro 7 à Vancouver. Puis c'est Vancouver qui va être en mode pression, là, qui va devoir subir toute la pression parce qu'ils avaient une avance quand même de 3-1 avant de rentrer dans le match d'aujourd'hui, mais hier en fait. Donc là, tout est fait pour que Nashville puisse forcer le numéro 6, mais là, forcer le numéro 7 aussi. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Il faudra que les gros joueurs des Canucks là, se lèvent, là, c'est sûr, pour permettre aux Canucks de passer à la deuxième ronde. Je parle des Hughes, Pedersen, Besser, tous ces gars-là. Et on va avoir besoin de tout le monde pour aller au deuxième tour. Puis pour Nashville, c'est aussi des attaquants qu'ils doivent produire.
Ouais.
Parce que ça va être dur sinon d'aller chercher une match numéro 7 ou voire même juste gagner une match numéro 6 là à la maison.
Ouais, tout à fait. T'as bien raison côté Nashville. T'as bien raison côté Vancouver aussi. T'as mentionné Pedersen. Il n'est pas assez visible dans cette série-là. Je pense qu'il y a un ou deux points maximum. Là. Ouais. C'est vraiment passé du côté de Pedersen. Il a vraiment connu une fin de saison difficile aussi après avoir un très bon départ. Ouais. Un départ... une fin de saison beaucoup plus difficile. Puis en série, bien, ça se poursuit. Puis les Canucks en auraient bien besoin. Puis ça rentre dans ce que je disais tantôt. Moins tes gros joueurs sont présents, moins tu génères de tirs au but, donc moins tu génères de chances de marquer. Puis malgré ça, comme je l'ai dit, on ne joue pas nécessairement du mauvais hockey côté des Canucks, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir améliorer. Parce que si on réussit à battre les Prédateurs, après ça, on va se faire manger tout rond contre les Oilers là, avec 22, 25, 18 tirs au but. Là. Ce n'est pas assez. Tu parlais de forcer peut-être un match numéro 7. Est-ce que tu crois que c'est ce que les Prédateurs vont faire?
Moi, je pense que c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, là, surtout à domicile. Ils ont une bonne foule là-bas. Je pense que switcher le momentum de côté. Là, les vont à domicile, ils ont toutes les chances de remporter ce match-là. Puis je pense que c'est ça. Justement, comme je disais, là, la pression va être du côté de Vancouver. Là, Winnipeg, mais Nashville n'a rien à perdre avec un déficit de 3-1 avant. Donc, je pense qu'ils pourraient forcer un match numéro 7.
Je pense aussi. J'ai dit les Prédateurs dans cette série, mais ce qui est étonnant, c'est que les deux matchs qu'on a remportés du côté des Preds, c'est à l'étranger. Ouais. Et là, on s'en va à domicile, donc bizarre. Tout comme les Leafs. Les Leafs ont gagné deux matchs à l'étranger, n'en ont pas gagné à domicile. Donc parfois, là, ces avantages de la glace ne vont pas nécessairement dans le sens de la logique. Ouais. Là-dessus, Hans, il est presque 3 heures du matin. Félicitations à toi. Ouais. Et on est passé au travers de ces 6 matchs. Donc, merci. Et puis, on se revoit très bientôt là, pour d'autres épisodes de Première Loge. Salut tout le monde. Bye bye.